L'enfance du matin.
Tu es rayonnante,
me lance Gustave en entrant dans la cuisine. Je sors du lit, je ne suis pas douchée, ni coiffée, ni maquillée, et tu me dis que je suis rayonnante?
Ne te parle pas de la surface, je te parle de ton fin fond. Tu sais, l'endroit le plus reculé des gens que les autres ignorent. Moi je le connais, ton fin fond, et il a changé de couleur. J'en suis presque éblouie.
Tu n'exagères pas un peu, Gustave?
À peine.
Tu crois que si je me concentre bien, ça peut faire office de fusée de détresse pour que les chevaux sachent où revenir?
Je crois que ce n'est pas de détresse qu'il doit s'agir entre vous.
Détresse pour la petite, au moins?
À la rigueur.
Gustave vient prendre ma tête entre ses mains et la secoue doucement, comme il le fait souvent, pour me signifier qu'il m'aime, y compris dans mes contradictions, dans mes tourments, ou quand je réagis bêtement. Parfois, il émet un « Ah là là, sacré-toi !» coordonné au mouvement de ses bras. Mais pas aujourd'hui. Le silence a un autre sens. Puis il se sert un grand café et vient s'asseoir en face de moi. Il coupe une large tranche de pain et y couche une grosse épaisseur de fromage de chèvre qu'il saupoudre de poivre et de ciboulette cueillie juste avant, dans le jardin, encore humide de la rosée de la nuit. Il trempe tout dans son café au lait et me regarde en me souriant, les cheveux en bataille, comme un gamin de 6 ans, heureux de l'instant, avant de mordre dedans. Quand on sait tout ce qu'il laisse derrière lui, on se dit qu'il a compris où était vraiment la vie. Il n'a pas oublié la guerre, la séparation d'avec sa famille, le renoncement à l'amour, la mort de Suzanne, mais il ne laisse rien de tout cela gâcher son quotidien. La vie, elle est dans le plaisir de cette énorme tranche de pain tartiné, aux mélanges improbables, mais qui ravit ses papilles chaque matin depuis des années. Certains étalent sur leur baguette du matin un mélange de rancœur et de regret, de tristesse ou de colère. Pauvres d'eux. Qu'ils viennent en stage ici. Gustave leur apprendra l'enfance du matin pour leur laisser une chance de ne pas s'endormir trop vieux le soir. J'attends qu'ils soient repartis pour déplier la lettre de Gaël. Je voulais la laisser reposer toute la nuit. Trop fatiguée hier soir. Trop dans ma bulle. Trop contente de voir mon mental capituler et ne plus oser lever le petit doigt, au moins pour un temps. Trop mal à la tête aussi. J'aime l'écriture de Gaël. Même au crayon à papier, même à la lumière d'une lampe torche. Même après une ascension de montagne. Même en reniflant, même quand il décortique ce qu'il a dans les tripes. Ma chère Stéphanie. Voilà, je crois qu'il faut que je t'écrive. Mais je ne sais pas par où commencer. Peut-être par nos débuts magnifiques et cette fin qui me laisse sur ma faim. Tu dis qu'il n'y en a pas. Mais s'il y a eu un joli démarrage et une intense période de croisière et que cela s'arrête, c'est bien qu'il y a une fin, non? Je ne sais pas si c'est de l'ordre du feu d'artifice ou du lever du jour, du plongeon de 10 mètres ou de l'envol d'une montgolfière. Mais la première fois que je t'ai vue, tu as déplacé mes lignes. Tu avais ce sourire, ce regard bleu, et cette façon parfois de le détourner quand je m'y attardais. Nous devions parler de Raphaël, un pauvre gamin qui souffrait des coups de son père, et tu évoquais son cas avec douceur. J'ai regardé tes mains écrire des mots durs, hématomes, lèvres fendues, violent avec ses camarades, et elle restait pourtant gracieuse. J'ai aperçu le port de ta tête, élégant et fin, et ses petits cheveux qui bouclaient dans ta nuque, tes clavicules saillantes qui venaient se rejoindre au bord d'un creux subtil et délicat. J'ai surtout entendu ta voix, un peu cassée, et tes intonations jurassiennes, ou peut-être vosgiennes. Cette voix qui chantait dans mes osselets et les faisait vibrer. J'en perdais l'équilibre. Ta silhouette frêle avait la fragilité d'un oiseau tombé du nid qu'on a envie de prendre dans ses mains pour le protéger du froid, des vents violents et des chats. Et moi j'avais de grandes mains toutes chaudes qui ne demandaient qu'à s'ouvrir. Tu as accepté de me laisser ton numéro et tu as pris le mien. Je n'ai pas compté ensuite le nombre de messages qu'on s'est envoyés, l'intensité de l'attente,
la perplexité dans laquelle le silence de l'un laissait l'autre. Je n'ai pas recensé toutes ces fois où je cherchais délicieusement un refuge pour te répondre. Dans le grenier de la maison, au fond de la cour de l'école, dans une allée peu fréquentée du supermarché. Et quand bien même il y avait foule autour de moi, je me sentais protégée dans ma bulle, parce qu'il n'y avait que toi qui comptais à ce moment-là. Je n'ai pas noté les jolies phrases, les rires simples et la longueur de certaines de nos discussions, parce qu'il n'y avait pas de place pour le calcul dans notre relation. Nous avons vite évacué le désir. Du moins, avons-nous décidé de le faire. Il n'avait pas sa place. Trop de risques de peine autour de nous et de dégâts collatéraux. Nous refusions cela. Nous voulions nous garder sans perdre notre moitié respective et nous considérer chacun comme la cerise sur le gâteau de l'autre. Deux cerises accrochées à la même tige. C'était simple, c'était beau, c'était touchant et ça rendait vivant. Ça me rendait vivant de compter pour toi et je sentais que c'était réciproque. Tu semblais heureuse de m'écrire, de me parler, parfois de me voir, même si ces moments-là étaient douloureux de rareté. Je crois que je me suis attachée à toi comme un enfant à son doudou. Et aujourd'hui, j'ai le chagrin du gamin qui l'a perdu. Parce que tu n'es plus là, Stéphanie. Tu es partie de notre relation sans que je comprenne pourquoi. Tu n'as jamais vraiment parlé de tes émotions. C'est étonnant pour une femme, mais je respectais ta retenue. Après tout, je m'en contentais. Tu me montrais autrement que tu tenais à moi. Du moins, je le pensais. Aujourd'hui, j'ai un doute immense qui me ronge le ventre et me désintègre de l'intérieur. Pour une fois, je suis heureux de mes kilos en trop. Je me dis qu'ils me laisseront un moment de répit avant de disparaître tout à fait et que le manque de toi mettra beaucoup de temps à me ronger complètement, avec ce minuscule espoir que le processus s'interrompe avant la fin. Parce que quand on a vécu l'intensité de l'autre, l'intensité de soi, l'intensité d'un « nous », et qu'on se retrouve face à la politesse et au silence, comme un mur venu s'ériger sans aucun signe avant-coureur, on s'y cogne, et hébété au pied de celui-ci, on se remet forcément en question. On doute de soi, on doute de tout. Je me demande si j'ai dit quelque chose de mal, si je t'ai trop donné ou pas assez, si je me suis trop attachée à toi ou pas assez, si tu as rencontré quelqu'un d'autre de plus gentil que moi, de plus drôle, de plus élégant, ou si ton mari t'a sommé de fermer la porte de derrière, celle qui donne sur le jardin secret à cause des courants d'air. Faisions-nous quelque chose de mal? Vaste question. C'est quoi le mal quand on s'attache à quelqu'un? L'étouffer? T'ai-je étouffé? Le mettre en danger? T'ai-je mise en danger? Rendre l'autre redevable d'un toujours oppressant? T'ai-je rendu redevable d'éternité? L'obliger à faire des choix? T'ai-je obligé à faire des choix? Je n'ai même plus de réponses tellement elles sont écrasées par l'incompréhension. Pourquoi ne pas m'expliquer ce qui s'est passé ce jour où tu as décidé qu'il fallait s'éloigner? Existe-t-il cet instant qui a soudain fait chavirer la barque de notre amitié? Ou bien a-t-elle pris l'eau insidieusement, par capillarité, à travers la paroi poreuse de nos différences, ou par les petits trous que l'usure aura creusés dans notre complicité, parce qu'elle était si dense qu'il fallait la percer pour la laisser respirer afin qu'elle ne meure pas. Elle est morte quand même. Pourquoi me laisser dans l'attente, dans le vide, dans le rien d'un téléphone qui ne sonne plus par toi, et me laisser supposer un avenir dont l'horizon n'est plus assez grand pour te garder puisque tu t'éloignes? Pourquoi le silence et l'indifférence, alors que je te crie qu'ils font mal depuis des semaines et que je préférerais que tu me dises la vérité, ta vérité? Pourquoi te déguiser encore en cerise, alors qu'il ne reste que le noyau? Et encore, y a-t-il seulement eu un jour un noyau? J'en suis là, Stéphanie. J'en suis à me demander si la cerise en était une. Pourquoi elle est tombée de mon gâteau et pourquoi, même en me penchant sous la table, je ne la retrouve pas? J'en suis à me demander si je n'ai pas été victime d'un mirage, trop assoiffé de ce que tu étais, de ce que j'avais envie que tu sois pour moi. J'en suis à ne plus savoir où j'en suis. Ma meilleure amie me dit de revenir vers mes fondamentaux et de t'oublier. J'essaie, mais c'est difficile. J'y crois encore. J'ai tellement envie d'y croire encore. Je me dis qu'il est impossible que tu n'aies été qu'un mirage ou que j'aie pu à ce point gâcher notre relation. Mais à quel moment ? Dis-moi la vérité, Stéphanie, si tu me respectes vraiment. Dis-moi où je dois me situer quand je pense à nous. Et si le « nous » existe encore. Je tiens à toi. Je t'aime fort. Gaëlle. Je replie la lettre en séchant mes larmes. Mon ami, mon meilleur ami, mon frère, en est là. Et je ne peux rien faire. Juste tendre mon épaule. Je la sens bien frêle face à un cataclysme pareil. Je ne suis manifestement pas la cerise de son gâteau. J'espère en être la chantilly. Évidemment que j'en suis la chantilly, depuis le temps, et avec ce que nous partageons. Mais cette femme devait lui apporter autre chose. Cette chose que je n'ai pas, que je n'ai jamais eue, et que je n'aurai jamais. La brûlure excitante de l'interdit, peut-être. L'ivresse du trouble, sûrement. Le chagrin du déchirement, pour finir. La gueule de bois donne parfois un goût amer à la fête. Et pourtant, on l'a fait quand même, en se disant qu'on regrettera plus tard. Il faut au moins que je lui prépare un de mes chocolats chauds maison pour quand il arrivera dans quelques minutes avec les croissants tièdes et la baguette croustillante. Au moins. Le lait commence à bouillir quand sa voiture se gare dans la cour. J'éteins le gaz sous la casserole et je verse le chocolat en poudre en tournant vigoureusement mon fouet dans la préparation. Je me retourne un court instant quand il entre dans la maison, juste le temps d'apercevoir ses paupières boursouflées. On pourrait hésiter entre un urticaire géant localisé autour des yeux et un chagrin nocturne intarissable. J'opte évidemment pour la deuxième hypothèse. Ça me fend le cœur. On souffre des peines de ceux qu'on aime, surtout quand on ne peut rien faire. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est un pas vers l'apaisement. C'est mieux dehors que dedans, tout ça. Il a dû pleurer tout le soir et s'endormir sur un dernier hoquet d'épuisement, dans les bras de sa femme, les doigts entrelacés. Qu'a dit Geneviève ? Rien, elle me connaît, elle est patiente. Elle m'aime. Elle sait que je l'aime. Amen. Il n'y a rien d'autre à dire. Ça ne t'a pas fait du bien d'écrire ? Si. Alléluia. La messe est dite de toute façon. Quand sais-tu ? Je le sais. Je n'ai même pas besoin d'envoyer la lettre. Bien sûr que si, il y a un moment où d'être fixé permet de reprendre la marche. La marche vers où ? Vers toi-même, vers d'autres, vers demain. Et je fais quoi de demain quand il manque des morceaux d'hier ? Demain n'a pas besoin d'hier pour être demain. Et Gaëlle n'a pas besoin de Stéphanie pour être Gaëlle. À toi d'y mettre autre chose dans ton demain, surtout si hier était un chemin cabossé. Je vais voir ce qu'elle me répond. Elle est touchante, ta lettre. C'est elle qui doit être touchée. Si elle ne l'est pas, c'est qu'elle ne te mérite pas. La tienne aussi est touchante. S'il ne revient pas avec ça, je n'attends plus rien. Menteuse. J'essaye de ne pas attendre. La nuance est de taille. C'est l'intention qui compte.